Chapitre 5. De cette seule façon s'affirmait le pouvoir des autorités locales sur le groupe puissant des robustes étrangers qui creusaient la terre, faisaient sauter les roches et menaient les locomotives du grand chemin de fer national, œuvre de progrès et de patriotisme, comme l'avait qualifié 18 mois auparavant, à l'occasion du premier coup de pioche, l'excellentissimo Señor Don Vicente Ribiera, dictateur du Costaguana. Il était venu à Saluco pour présider cette cérémonie, à l'issue de laquelle la compagnie OSN lui avait offert un déjeuner d'honneur, un convite, à bord de la Junon. Le capitaine Metchon dirigeait en personne la chaloupe, tout ornée de drapeaux, où avait pris place l'excellentissimo, et que remorquait de la jeter au navire la vedette à vapeur de la Junon. On avait invité tous les personnages de marque de Sulaco, un ou deux négociants étrangers, tous les représentants des vieilles familles espagnoles alors présents en ville, et les grands propriétaires de la plaine, hommes graves, courtois et simples, caballeros de pur lignage, aux petits pieds et aux petites mains, conservateurs, hospitaliers et bienveillants. Cette province occidentale était leur fief. Leur parti Blanco se trouvait maintenant au pouvoir, et c'était leur président dictateur Blanco entre les Blancos, dont le sourire aimable s'adressait tour à tour aux représentants assis à ses côtés de deux puissances étrangères et amis. Ils étaient venus avec lui de Santa Marta pour rehausser de leur présence une entreprise où étaient engagés les capitaux de leur pays. La seule dame de la société était Madame Gould, femme de Don Carlos, l'administrateur de la mine d'argent de San Tomé. Les dames de Sulaco n'avaient pas assez de hardiesse pour se mêler à ce point à la vie publique. Elles étaient venues en nombre la veille au soir au grand bal de l'intendencia, mais seule Madame Gould était montée sur l'estrade officielle, point clair dans la masse sombre des habits noirs rangés derrière le président dictateur. Tendue de rouge, cette estrade s'élevait à l'ombre d'un arbre sur le quai du port, d'où l'on avait enlevé la première motte de terre. Dans la chaloupe chargée de personnages de marque, la jeune femme s'était assise à la place d'honneur, sous les faisceaux joyeux de drapeaux frémissants, à côté du capitaine Metchel qui tenait la barre. Et dans le vaste salon somptueux de la Junon, sa robe légère mettait la seule note de vraie joie parmi la terne assemblée. Le président londonien du conseil d'administration du chemin de fer penchait vers Madame Gould un visage pâle et fin, sous la blanche auréole de ses cheveux d'argent et la barbe courte. Sur ses traits jouait un sourire attentif et las. Le voyage en paquebot de Londres à Santa Marta et les wagons spéciaux de la ligne côtière de Santa Marta, la seule existante alors dans le pays, avait été acceptable, très acceptable, agréable même. Mais l'expédition à travers les montagnes et la vieille diligence de Sulaco, lancée sur d'impraticables routes, côtoyant des précipices affreux, lui avait valu des souvenirs d'une toute autre nature. Nous avons versé deux fois en un seul jour, au bord même de ravins très profonds, disait-il à mi-voix à la jeune femme. Et, en arrivant ici, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans votre hospitalité. Quel trou perdu que ce Sulaco! Et quel port aussi! Singulier! Nous n'en sommes pourtant pas peu fiers. Notre ville a eu son importance historique. Elle fut autrefois, sous deux vice-rois, le siège de la plus haute cour ecclésiastique, protestait Madame Gould avec vivacité. Vous m'impressionnez. Je ne voulais pas dénigrer votre ville, pour laquelle vous paraissez nourrir un amour de patriote. C'est un endroit charmant, ne serait-ce que par la situation. Mais vous ignorez sans doute que j'en suis une très vieille résidente. Très vieille, vraiment, murmura son voisin en le regardant avec un sourire. La mobilité ardente de ses traits donnait à Madame Gould un grand air de jeunesse. Nous ne pouvons pas vous rendre une cour ecclésiastique, mais vous aurez plus de bateaux, un chemin de fer, un câble sous-marin, un avenir dans le vaste monde qui vaudra 100 fois mieux que tout votre passé ecclésiastique. Nous vous mettrons en contact avec quelque chose de plus grand que les vice-royautés. Moi, je ne croyais pas qu'au bord de la mer, une ville pût rester si bien isolée du monde. Si encore elle était à des centaines de milles dans les terres. Singulier. Est-il rien arrivé ici depuis un siècle ? La jeune femme continuait à sourire, en écoutant parler son voisin sur ce ton de persiflage aimable. Elle abonda ironiquement dans son sens pour lui affirmer que certainement il n'arrivait jamais rien à Sulaco. Les révolutions mêmes, dont elle avait déjà vu deux, respectaient le calme de la ville. Elles se déchaînaient dans les parties méridionales, plus peuplées de la République, et dans la grande vallée de Santa Marta, éternel champ de bataille qui promettait aux partis en présence la capitale convoitée et l'accès facile à un autre océan. On était plus avancé là-bas. Ici, à Sulaco, ne parvenaient que les échos affaiblis de ces grandes querelles, suivies des obligatoires mutations dans le monde officiel. Des fonctionnaires nouveaux franchissaient le rempart des montagnes, qu'il avait lui-même, dans la vieille diligence, traversée au péril de sa vie et aux grandes dents de ses membres. Le président du conseil d'administration avait joui pendant plusieurs jours de l'hospitalité de Madame Gould et lui en gardait une vraie gratitude. C'est seulement après son départ de Santa Marta que l'exotisme de l'ambiance lui avait fait perdre toute impression de vie européenne. Hôte de la légation dans la capitale, il s'était surtout occupé de négocier avec les membres du gouvernement de Don Vicente, hommes cultivés qui n'ignoraient rien des conditions de la vie civilisée. Ce qui le préoccupait le plus pour l'instant, c'était l'acquisition de terrains pour les chemins de fer. Dans la vallée de Santa Marta, où courait déjà une ligne, les habitants se montraient accommodants, et il n'y avait qu'à débattre les prix. On avait nommé une commission pour déterminer la valeur des terrains, et la question se réduisait à savoir exercer sur les commissaires une influence judicieuse. Mais à Sulaco, dans cette province occidentale, dont le chemin de fer même devait hâter le développement, des difficultés s'étaient élevées. La région était restée assoupie, pendant des siècles, derrière ses barrières naturelles, protégée contre toute entreprise moderne par les précipices de sa cordillère, par son port sans profondeur, ouvert sur le calme éternel d'un golfe plein de nuages, par l'esprit rétrograde surtout des propriétaires de son sol fertile, Don Alonso et Don Fernandos, des vieilles familles espagnoles, qui accueillaient avec répugnance et ennui l'idée du passage d'un chemin de fer sur leur domaine. Les ingénieurs chargés de lever les premiers plans avaient été, en divers points de la province, l'objet de menaces violentes. En d'autres cas, les propriétaires affichaient pour la vente de leurs terrains des prétentions absurdes. Mais l'homme des chemins de fer se vantait de savoir s'élever à la hauteur de toutes les circonstances. Puisqu'il se heurtait à Sulaco à l'aveugle hostilité d'un esprit rétrograde, c'est au sentiment aussi qu'il saurait faire appel, avant d'avoir recours à son droit légitime. Il savait le gouvernement tenu d'exécuter sa part du contrat passé avec la nouvelle compagnie, dût-il pour cela user de violence. Mais il redoutait par-dessus tout une contrainte armée pour la réalisation de ses plans, plans trop vastes, trop pleins de promesses et de vues lointaines pour négliger la moindre chance de succès. C'est cette idée qui l'avait conduit à amener à Sulaco le président dictateur, et à faire avec lui une expédition dont discours et cérémonies trouvaient leur couronnement dans cette inauguration et ce premier coup de pioche donné sur la rive du port. Après tout, c'était leur créature, ce Don Vicente, qui personnifiait le triomphe des meilleurs éléments de l'État. C'était là un fait, et si les faits avaient une signification, se disait Sir John, un tel homme devait posséder une influence réelle, et son action personnelle devait amener les effets de conciliation nécessaires. Il avait réussi à mettre sur pied l'expédition grâce au concours d'un très habile avocat, bien connu à Santa Marta, comme conseil de la mine d'argent Gould, la plus grosse entreprise de Sulaco, et même de toute la République. C'était en effet une mine fabuleusement riche. Le prétendu conseil, homme manifestement cultivé et intelligent, semblait, en dehors de toute situation officielle, jouir d'une influence extraordinaire dans les hautes sphères gouvernementales. Il put affirmer à Sir John que le président dictateur ferait le voyage, mais déplora, au cours de la même conversation, l'insistance du général Montero à en faire partie lui aussi. Le général Montero, que le début de la guerre civile avait trouvé capitaine obscur dans un poste désert de la frontière orientale, avait apporté son appui au parti Ribiera en un temps où des circonstances spéciales donnaient à ce faible concours une importance particulière. La fortune de la guerre l'avait merveilleusement servi. et la victoire de Rio Seco, remportée après un jour de lutte acharnée, avait mis le sceau à sa renommée. Il avait fini par se voir général, ministre de la guerre et chef militaire du parti Blanco, bien qu'il ne pût se targuer d'une origine aristocratique. On disait même qu'orphelins tous deux, son frère et lui, avaient dû leur éducation à la générosité d'un célèbre voyageur européen, au service de qui leur père avait perdu la vie. Ce père, simple charbonnier, selon une autre version, aurait vécu dans les bois avec leur mère, une indienne baptisée de l'intérieur. Quoi qu'il en fût, la presse du Costaguana célébrait comme le plus héroïque exploit militaire des temps modernes la marche effectuée par Montero à travers les forêts pour rejoindre de son poste les forces Blanco au début de la guerre. Vers la même époque, son frère, rentré d'Europe où il était nommément secrétaire de consulat, avait réuni une bande de proscrits et montré quelques talents comme chef de guérilla. Son rôle lui avait valu, à la pacification, le poste de gouverneur militaire de la capitale. Le ministre de la guerre accompagnait donc le dictateur. L'administration de la compagnie OSN, qui marchait la main dans la main, pour le bien de la République, avec celle du chemin de fer, avait, en cette occasion mémorable, donné l'ordre au capitaine Mitchell de mettre à la disposition des illustres voyageurs son paquebot poste, la Junon. Don Vincente, pour venir de Santa Marta, s'était embarqué à Cayta, le premier port du Costaguana, et avait gagné Sulaco par la mer. Mais le président de la compagnie de chemin de fer avait courageusement affronté la traversée des montagnes dans une vieille diligence ferrailleuse, poussée surtout par le désir de voir son ingénieur en chef occupé à une inspection dernière du tracé de la voie. Malgré son indifférence d'homme d'affaires pour la nature, dont la puissance de l'argent sait toujours vaincre l'hostilité, il n'avait pu s'empêcher d'être frappé par le spectacle que présentaient les environs du campement des arpenteurs, où il avait passé la nuit, au point le plus élevé de la future ligne. Il était arrivé un instant trop tard pour voir s'éteindre le dernier reflet du soleil sur les pentes neigeuses de l'Higuerota. Des masses verticales de basalte noir encadraient dans un immense porche un pan de la nappe blanche qui présentait, en face du couchant, une ligne fuyante. Tous les détails paraissaient très proches dans l'air transparent des hautes altitudes et noyés dans une immobile clarté comme dans un fluide impondérable. L'oreille tendue pour saisir l'approche de la diligence, l'ingénieur avait contemplé, du seuil de sa hutte de rue de pierre, les teintes changeantes épandues sur les flancs énormes de l'Higuerota. Il se disait que dans un tel spectacle, comme dans une œuvre de musique géniale, on pouvait trouver d'exquises délicatesses de nuances à côté d'effets d'écrasante puissance. Sir John arriva trop tard pour jouir du chant magnifique et silencieux lancé par le soleil couchant sur les pics altiers de la Sierra. Les derniers échos s'en étaient apaisés dans la chute ouatée du crépuscule lorsqu'il descendit tout engourdi de la diligence, en posant le pied sur la roue pour serrer la main de l'ingénieur. On le fit dîner dans une hutte de pierre, petite cellule cubique dont les deux ouvertures ne comportaient ni porte ni fenêtre. Un feu brillant de fagots, apporté à dos de mule de la vallée la plus proche, brûlait au dehors et jetait dans la cabane une lueur dansante. Deux bougies plantées dans les chandeliers de fer blanc avaient été allumées en son honneur, comme on le lui fit remarquer, sur la table rustique où il prit place à la droite de son hôte. Il savait être aimable. Et, assis à ses côtés, dans une attitude modeste, les jeunes ingénieurs, pour qui la construction de cette ligne avait l'attrait des premiers pas sur le sentier de la vie, laissaient paraître sur leurs visages imberbes, tannés par les intempéries, le plaisir que leur causait une telle aménité chez un homme de cette importance. Après le repas, et fort avant dans la nuit, Sir John se promena dans le camp en causant avec son ingénieur en chef. Il le connaissait de longue date, et ce n'était pas la première entreprise à laquelle concouraient leurs talents, aussi différents l'un de l'autre que le feu et l'eau. L'union de ces deux personnalités, qui n'avaient pas la même vision du monde, fournissait au service de ce monde une puissance colossale, force subtile qui savait mettre en branle les énormes machines et les muscles humains, et qui savait aussi éveiller dans le cœur des hommes un enthousiasme fervent pour l'œuvre entreprise. Les jeunes gens assis à cette table, pour qui le travail actuel était une promesse d'avenir, Plus d'un était voué à la mort avant que la tâche ne fût terminée. Mais elle serait terminée, car la force avait presque la puissance de la foi. Pas tout à fait, cependant. Sur le plateau baigné de lune, dans le camp endormi, au sommet du col, vaste arène entourée de murs immenses de basalte, les deux promeneurs, enveloppés dans les manteaux épais, s'arrêtèrent un instant et la voix de l'ingénieur s'éleva dans le silence. « Nous ne pouvons pas transporter les montagnes. » Sir John leva les yeux pour suivre le geste de son compagnon et comprit toute la portée de ses paroles. Bulle glacée sous l'éclat de la lune, le blanc Higuerota planait au-dessus de l'ombre des rochers et de la terre. Tout se taisait lorsque, derrière l'enclos des animaux du camp, une mule de bât se mit à frapper du pied et hennit à deux reprises. Les paroles de l'ingénieur en chef répondaient à une supposition émise par le président, qui lui suggérait l'idée de modifier le tracé de sa ligne pour respecter les répugnances des propriétaires de Sulaco. Pour l'ingénieur, l'obstination des hommes était le moindre obstacle. N'avait-on pas d'ailleurs, pour la combattre, la grande influence de Charles Gould? Au contraire, le percement d'un tunnel sous l'Higuerota aurait constitué une entreprise colossale. Ah oui, Gould, quelle espèce d'homme est-ce? Sir John avait beaucoup entendu parler de Charles Gould à Santa Marta et voulait en entendre parler encore. L'ingénieur en chef lui affirma que l'administrateur de la mine de San Tomé avait une influence considérable sur tous ces Espagnols. Sa maison était aussi l'une des meilleures de Sulaco, et l'hospitalité des Gould était au-dessus de tout éloge. Les Gould m'ont reçu, dit l'ingénieur, comme s'ils m'avaient connu depuis des années. La petite madame est l'amabilité en personne. J'ai passé un mois chez eux. Gould m'a aidé à recruter les premiers travailleurs. Sa qualité de propriétaire, pour ainsi dire, de la mine, le met dans une situation privilégiée. Il paraît disposer de toutes les autorités de la province, et comme je vous le disais, il sait faire marcher les hidalgos du pays. Si vous suivez mes conseils, vous verrez toutes les difficultés s'aplanir. Gould a besoin de notre chemin de fer. Naturellement, faites attention à vos paroles. C'est un Anglais, et il doit être colossalement riche. La maison Holroyd est de moitié avec lui dans la mine, et vous pouvez imaginer... Il s'interrompit. Devant l'un des feux allumés près du bas de l'enclos, un homme s'était dressé, drapé jusqu'au cou dans son poncho. La selle qui lui servait d'oreiller faisait sur le sol une tache sombre, contre le reflet rouge des braises. « Je verrai Holroyd lui-même en repassant aux États-Unis, » dit Sir John. « J'ai pu savoir qu'il désire fort lui aussi notre chemin de fer. » L'homme qui s'était levé, gêné peut-être par le bruit des voix trop proches, alluma une cigarette. La flamme de son allumette éclaira un instant son visage bronzé, aux favoris noirs et aux yeux droits. Puis il arrangea ses couvertures, s'allongea sur le sol de toute sa longueur et reposa sa tête sur la selle. « C'est le chef du camp, » expliqua l'ingénieur. « Je vais le renvoyer à Sulaco, maintenant que nous allons lever nos plans dans la vallée de Santa Marta. C'est un homme précieux que m'a prêté le capitaine Mitchell de la compagnie OSN, très aimable de la part de Mitchell. Charles Gould m'avait averti que je ferais bien de profiter de cette offre. Le gaillard sait mener tous ses muletiers, et grâce à lui, nous n'avons pas eu la moindre difficulté avec aucun de nos ouvriers. Il escortera votre diligence jusqu'à Sulaco, avec quelques-uns de nos hommes. La route est mauvaise, et sa présence pourra épargner quelques chutes à votre véhicule. Il m'a promis de prendre soin de vous jusqu'au bout, comme de son propre père. » Ce chef de camp était le marin italien que tous les Européens de Sulaco appelaient Nostromo, selon la fausse interprétation du capitaine Mitchell. Et en fait, taciturne et toujours prêt, il veilla avec un soin jaloux dans les parties les plus mauvaises de la route sur le voyageur confié à sa charge, comme Sir John le déclara lui-même plus tard à Madame Gould. Chapitre 6. Nostromo avait à cette époque fait dans le pays un séjour assez long pour exalter au plus haut point l'opinion du capitaine Mitchell sur la prodigieuse valeur de sa découverte. C'était manifestement un de ces inappréciables subordonnés dont la possession constitue pour leur chef un motif de gloire légitime. Le capitaine Mitchell se piquait de sa perspicacité, mais il n'était pas égoïste, et son innocent orgueil le poussait à proposer « Je vais vous prêter mon capataz de cargadores, Mani qui devait peu à peu mettre Nostromo en contact avec tous les éléments européens de Sulaco et en faire un factotum universel d'une merveilleuse capacité dans sa sphère. « Ce garçon-là m'est dévoué corps et âme », affirmait le capitaine Mitchell. Et si personne n'eût su expliquer la raison d'un tel attachement, nul n'aurait pu davantage, à voir les relations de ces deux hommes, le mettre sérieusement en doute. Au moins aurait-il fallu pour cela un caractère amer et excentrique, comme celui du docteur Manningham, par exemple, dont le rire bref et désabusé semblait exprimer une immense méfiance de l'humanité. Non pas d'ailleurs que le docteur Manningham fût prodigue de rires ou de paroles, mais dans ses meilleurs jours, il restait taciturne et ironique, et dans les pires, chacun redoutait sa langue acerbe et son dédain avoué. Seule Madame Gould savait contenir dans les limites raisonnables l'expression de son mépris à l'endroit de ses contemporains. Mais même à elle, dans une circonstance qui n'avait rien à voir avec Nostromo, et sur un ton très doux pour lui, même à elle, il avait dit un jour, « N'est-il pas très peu raisonnable de demander à un homme de penser des autres beaucoup plus de bien qu'il n'en saurait penser de lui-même ?» Et Madame Gould s'était hâtée de changer de conversation. Des bruits singuliers couraient sur le compte du médecin anglais. Bien des années auparavant, au temps de Guzman Bento, il avait, selon la rumeur publique, joué un rôle dans une conspiration qui, à la suite d'une trahison, fut, comme on dit, noyée dans le sang. Depuis lors, ses cheveux avaient grisonné, son visage glabre et couturé avait pris une teinte de brique, et il arborait, sans le moindre souci du décorum, de larges chemises de flanelle à carreaux et un vieux panama défraîchi. N'eût été l'impeccable netteté de ses vêtements, on aurait pu le prendre pour un de ces Européens misérables dont la présence blesse toujours l'orgueil d'une colonie étrangère dans toutes les parties du monde. Les jeunes beautés de Sulaco, dont les groupes de frais visages fleurissaient les balcons de la rue de la Constitution, entendaient de loin son pas irrégulier et disaient, en voyant sa tête penchée et le court veston de toile négligemment passé sur sa chemise de flanelle, « Voici le seigneur docteur qui a mis son petit veston. Il va voir Doña Emilia. » Conclusion légitime, mais dont leur simple jugement ne comprenait pas le sens profond. Elle ne s'attardait pas, d'ailleurs, à penser au docteur. Laid, vieux et savant, il était un peu fou, sinon sorcier, comme le soupçonnaient de l'être les gens du peuple. Le petit veston blanc était en réalité une concession faite à l'influence humanisante de Madame Gould, le docteur, habitué à s'exprimer de façon railleuse et amère, n'ayant pas d'autre moyen de manifester son respect profond pour le caractère de cette femme, connue dans le pays sous le nom de la Signora Anglaise. Et une telle concession, c'était, de sa part, un hommage très sérieux et qui, venant d'un homme de cette humeur, n'était pas à dédaigner. Madame Gould, d'ailleurs, s'en était rendue compte et n'aurait jamais songé à lui imposer d'elle-même un tel témoignage de déférence. Par l'hospitalité qu'elle exerçait dans sa vieille maison espagnole, une des plus belles de la ville, elle s'appliquait à répandre quelque agrément sur la vie sociale de Sulaco et s'acquittait de cette tâche avec autant de charme que de simplicité, grâce à un sentiment très fin des nuances. Elle était remarquablement experte dans cet art du commerce humain, tout fait de nuances délicates, d'oubli de soi-même et d'un vernis d'universelle compréhension. Les Gould, établis au Costaguana depuis 3 générations, étaient toujours allés en Angleterre pour y faire leurs études et pour s'y marier. Charles Gould croyait, comme tout autre homme, avoir été séduit par l'excellent jugement de la jeune fille. Mais il y avait, en fait, quelque chose de plus chez sa fiancée, et c'est pour ce quelque chose que, dans le camp des ingénieurs, par exemple, au milieu des pics de la Sierra, revenait si souvent sur les lèvres de tous, du plus jeune au plus vieux, le nom de Madame Gould et de sa maison. Elle aurait affirmé, d'ailleurs, n'avoir rien fait pour eux, en riant de son rire doux, et la surprise aurait élargi ses yeux, si on lui avait dit avec quel enthousiasme on parlait d'elle là-haut, au-dessus de Sulaco, à la limite des neiges éternelles. Mais elle aurait pourtant trouvé tout de suite, avec un petit air de sagacité, cette explication. Les pauvres garçons ont été surpris de trouver ici un accueil quelconque. Ils devaient avoir le mal du pays. Est-ce que tout le monde n'a pas un peu le mal du pays? Elle plaignait toujours les gens qui souffraient de ce mal-là. Née au Costaguana, comme son père avant lui, Charles Gould paraissait toujours, avec sa svelte stature, sa moustache flamboyante, son menton net, ses yeux bleu clair et son visage maigre, frais et coloré, tout frais débarqué d'Angleterre. Son grand-père avait combattu pour l'indépendance, sous les ordres de Bolivar, dans cette fameuse légion anglaise dont le libérateur avait, sur le champ de bataille de Carabobo, salué les soldats du titre de « sauveur du pays ». Un de ses oncles, président élu au temps de la fédération de cette même province, alors état de Sulaco, avait été fusillé contre un mur d'église par l'ordre du barbare général unioniste Guzman Bento. La tyrannie cruelle et implacable de ce Guzman Bento, plus tard président perpétuel, avait donné naissance à une légende populaire. Spectre altéré de son sang, son esprit hantait toujours le pays à la recherche de son corps, arraché par le diable en personne au mausolée de briques élevé dans la nef de l'Assomption à Santa Marta. Telle était au moins l'explication donnée de sa disparition par les prêtres à la foule terrifiée de va-nu-pieds qui avait envahi l'église et contemplait, stupéfaite devant le grand autel, le trou creusé au flanc de l'affreux monument de briques. Guzman Bento, de cruelle mémoire, avait fait bien d'autres victimes que l'oncle de Charles Gould, mais à la suite de ce martyr pour leur cause, les membres des familles de pure origine espagnole, les aristocrates, comme on les désignait au temps de Guzman Bento, devenus des blancos depuis qu'ils avaient renoncé à l'idée fédérale, considéraient Charles Gould comme un des leurs. Avec un tel passé familial, on aurait pu être plus costaguanien que Don Carlos Gould. Mais il conservait un aspect si caractéristique qu'il restait toujours, pour les gens du peuple, l'inglès, l'anglais de Sulaco. Il gardait un extérieur plus anglais que le touriste de rencontre, hérétique d'ailleurs tout à fait inconnu à Sulaco, plus anglais que les jeunes ingénieurs débarqués de la veille, plus anglais que les gentlemen en habits de chasse dessinés dans les gravures de Punch qui arrivaient à sa femme quelques 2 mois après leur publication. On était surpris de l'entendre s'exprimer en espagnol, en castillan comme on dit là-bas, ou dans le dialecte indien des gens de la campagne, avec autant de naturel. Il n'avait jamais eu le moindre accent anglais, mais il y avait quelque chose de si indélébile dans toute cette lignée des Gould du Costaguana, libérateurs, explorateurs, planteurs de café, négociants ou révolutionnaires, que Charles, le seul représentant de leur troisième génération, gardait, dans un continent fier de son propre style d'équitation, un aspect parfaitement anglais jusque sur son cheval. Que l'on ne voit point là, d'ailleurs, une ironie semblable à celle des llaneros, ces hommes des grandes plaines, qui pensent être seuls au monde à savoir se tenir en selle. Charles Gould montait, selon la pompeuse expression consacrée, comme un centaure. L'équitation n'était pas pour lui un exercice d'un genre particulier, mais une allure aussi naturelle que la marche pour tout homme qui jouit de l'usage de ses membres. Et pourtant, à le voir trotter sur la piste défoncée qui menait à la mine, avec ses vêtements de coupe anglaise et sa sellerie d'outre-mer, on eût dit qu'il arrivait tout droit des vertes prairies situées là-bas, à l'autre bout du monde. Il suivait la vieille route espagnole, le Camino Real, du langage populaire, seul vestige de nom et de fête de cette royauté détestée du vieux Giorgio, dont l'ombre même avait déserté le pays. Car la statue équestre de Charles IV, qui s'élevait toute blanche sur un fond de verdure à l'entrée de l'Alameda, n'était connue des campagnards et des mendiants de la ville que sous le nom de cheval de pierre. L'autre Carlos, qui tournait à gauche avec un bruit sec de sabots rapides, sur les pavés disjoints, Don Carlos Gould, paraissait dans ses vêtements anglais aussi étrange, mais beaucoup plus à l'aise, que le royal cavalier qui tenait la bride de son cheval au-dessus du piédestal et des vagabonds endormis, et levait son bras de marbre vers le lourd rebord d'un chapeau empanaché. Cette effigie royale restait, avec son ébauche vague de salut, imperturbable devant les changements politiques qui lui avaient volé jusque son nom. Mais l'autre cavalier, bien connu de la ville, le cavalier vivant et ferme, sur son beau cheval ardoise à l'œil blanc, ne laissait pas non plus voir son cœur à tout le monde, à travers ses vêtements anglais. Son esprit gardait toujours un parfait équilibre, comme si l'impassibilité qui s'impose en Angleterre à la vie privée et publique l'eût enveloppée. Charles Gould acceptait avec la même placidité la mode effarante des dames de Sulaco, au visage si étrangement poudré qu'il en prenait l'aspect d'un masque de plâtre, animé seulement de beaux yeux vifs, les potins de la ville et ses continuelles convulsions politiques, ses constants appels au salut du pays qui faisaient à sa femme l'effet d'un drame de meurtre et de rapine puéril et sanglant, joués avec un sérieux effroyable par des enfants dépravés. Au premier temps de son séjour, la jeune femme se tordait les mains d'exaspération devant l'incapacité de son mari à prendre les affaires du pays avec le sérieux que réclamaient les atrocités commises. Elle n'y voyait qu'une comédie d'hypocrisie naïve et ne trouvait de sincérité que dans son indignation et son horreur. Très calme, Charles Gould frisait sa longue moustache en se refusant à toute discussion. Une fois pourtant, il avait fait observer doucement à sa femme « Ma chérie, vous oubliez que je suis née ici. » Ces quelques mots avaient apaisé Madame Gould, comme s'ils eussent contenu une révélation. Peut-être le fait d'être née dans le pays expliquait-il en effet toute la différence. Sa confiance dans son mari avait toujours été très grande. Il avait, dès l'abord, frappé son imagination par une absence de sensiblerie, par une parfaite quiétude d'esprit, où elle voyait dans son fort intérieur la marque d'une compétence certaine dans la conduite de la vie. Don José Avellanos, qui habitait de l'autre côté de la rue, homme de haute culture, poète et personnage politique, qui avait représenté son pays auprès de plusieurs cours d'Europe et subi des traitements inouïs comme prisonnier d'État du tyran Guzmán Bento, Don José disait, dans le salon de Doña Emilia, que Carlos alliait aux qualités du caractère anglais les vertus de cœur d'un vrai patriote. Cette appréciation de son patriotisme n'avait pas provoqué le moindre tressaillement sur le visage osseux, rouge et hâlé que contemplait Madame Gould. Peut-être son mari descendait-il de cheval, à son retour de la mine, car il était assez anglais pour n'attacher aucune importance à la chaleur du jour. Basilio, dans sa livrée de toile blanche, à ceinture rouge, s'était accroupi dans le patio, derrière les talons de son maître, pour détacher les lourds éperons, puis le seigneur administrateur avait gravi l'escalier qui menait à la galerie. Des plantes en pot, rangées sur la balustrade, entre les pilastres des arceaux, formaient un mur de fleurs et de feuilles qui isolait le corridor de la cour intérieure, ce patio des maisons sud-américaines, véritable cœur de la maison, où la marche des ombres et du soleil sur le sol dallé marque seule les heures paisibles de la vie domestique. Le seigneur Avellanos traversait presque tous les jours le patio vers 5 heures. Il avait choisi cette heure rituelle du thé qui lui rappelait le temps où il vivait à Londres, en qualité de ministre plénipotentiaire auprès de la cour de St. James. Il n'aimait pourtant pas le thé. Il se balançait dans son fauteuil américain, croisant sur la barre d'appui ses petits pieds aux bottines luisantes, et parlait sans arrêt avec une sorte de virtuosité complaisante, remarquable chez un homme de son âge. Il tenait tout le temps sa tasse à la main. Sa tête aux cheveux ras était parfaitement blanche et ses yeux d'un noir de jais. En voyant Charles Gould entrer dans le salon, il lui faisait un petit salut d'attente et achevait sa période oratoire avant de lui dire « Carlos, mon ami, vous êtes venu à cheval de Saint-Thomé, au plus fort de la chaleur. Toujours la vraie activité anglaise, non? Alors pourquoi ?» Il avalait son thé d'une gorgée, acte d'héroïsme, invariablement suivi d'un petit frisson et d'un léger « brrr » involontaire que masquait mal l'exclamation hâtive « Excellent !» Il confiait alors sa tasse à la jeune femme, qui avançait la main avec un sourire et continuait à pérorer sur le caractère patriotique de l'entreprise de Saint-Thomé pour le seul plaisir, semblait-il, de s'entendre parler. Tout en bavardant, il se balançait, à demi couché dans le rocking chair importé des États-Unis. Le plafond du grand salon de la Casa Gould mettait très haut au-dessus de sa tête sa blancheur unie. Cette élévation faisait paraître plus petites les pièces du mobilier disparates, lourdes chaises espagnoles en bois brun, à dossier droit et à siège de cuir, ou fauteuils anglais très bas et tout garnis de coussins, petits monstres trapus, bourrés à crever de ressorts d'acier et de crins de cheval. Il y avait des bibelots sur de petites tables, des miroirs encastrés dans le mur au-dessus des consoles de marbre, des tapis carrés sous les deux groupes de fauteuils, présidés chacun par un sofa profond. Des carpettes plus petites parsemaient le sol carrelé de rouge. Trois grandes portes-fenêtres, garnies des plis verticaux de lourdes tentures sombres, s'ouvraient sur un balcon. Il subsistait un peu de la noblesse du passé, entre les quatre murs unis, délicatement teintés de rose, et assise dans un flot de mousseline et de dentelle, à une frêle table d'acajou, Madame Gould ressemblait, avec sa petite tête et ses boucles soyeuses, à une fée délicatement posée devant les filtres précieux, servis dans des vases d'argent et de porcelaine. Madame Gould connaissait bien l'histoire de la mine de Saint-Thomé, qui, exploitée d'abord à coups de fouet sur des dos d'esclaves, avait fait payer ses produits de leur poids de chair humaine. Des tribus entières d'Indiens avaient laissé leurs os dans ces galeries. On avait fini par abandonner la mine le jour où cette méthode primitive avait cessé de donner des résultats suffisants, malgré le nombre des cadavres engloutis dans ses entrailles. Longtemps oubliée, elle fut redécouverte après la guerre de l'indépendance. Une compagnie anglaise avait obtenu le droit de l'exploiter et y avait trouvé une veine si riche que ni les exactions des gouvernements successifs, ni les incursions périodiques des officiers recruteurs sur la population de leurs mineurs rétribués n'avaient pu décourager le zèle des ingénieurs. Mais au cours des troubles prolongés des pronunciamentos qui suivirent la mort du fameux Guzman Bento, les mineurs du pays, incités par des émissaires de la capitale, s'étaient soulevés contre leurs chefs anglais et les avaient massacrés jusqu'au dernier. Le décret de confiscation, immédiatement publié dans le Diario Oficial à Santa Marta, commençait par ces mots. Justement enflammé par l'exploitation cruelle d'étrangers poussés par de sordides motifs de lucre plutôt que par l'amour d'un pays où ils sont venus sans ressources pour chercher fortune, la population minière de Saint-Thomé, etc. Et se terminait par cette déclaration, le chef de l'État a décidé d'exercer jusqu'au bout son pouvoir de clémence. La mine, dont toutes les lois internationales, humaines et divines, proclament le retour nécessaire au gouvernement, comme propriété nationale, restera fermée jusqu'à ce que l'épée, tirée pour les principes sacrés de la liberté, ait accompli sa tâche et rendu le bonheur à notre chère patrie. Et pendant des années, on n'entendit plus parler de la mine de Saint-Thomé. Il est impossible de comprendre, maintenant, quel avantage le gouvernement attendait de cette spoliation. On obligea le Costaguana à payer une indemnité misérable aux familles des victimes, et l'affaire disparut des dépêches diplomatiques. Mais plus tard, un nouveau gouvernement s'avisa de la valeur de ce gage. C'était d'ailleurs un gouvernement semblable à tous les autres, le quatrième en 6 ans. Mais il savait juger plus sainement de ses avantages. En se souvenant de la mine de Saint-Thomé, il comprit avec un sens très net des réalités qu'une telle richesse, sans valeur aucune entre ses mains, pouvait être exploitée avec une ingéniosité plus subtile que par un travail grossier d'extraction du métal et devrait servir à des usages multiples. Le père de Charles Gould, longtemps l'un des plus riches commerçants du Costaguana, avait perdu déjà une grosse partie de sa fortune dans les emprunts forcés des gouvernements successifs. C'était un homme de sens rassis, qui n'avait jamais songé à réclamer trop haut son dû. Mais son effroi fut extrême quand on lui offrit, en totalité, la concession perpétuelle de la mine de Saint-Thomé. Il connaissait les façons d'agir des gouvernements. D'ailleurs, le mobile, sans doute profondément médité, de cette proposition, apparaissait avec trop d'évidence dans le document péremptoirement présenté à sa signature. Le troisième et le plus important article du traité stipulait que le concessionnaire devrait payer au gouvernement, pour sa prérogative, une redevance immédiate égale à 5 années du produit supputé de la mine. C'est en vain que M. Gould père se défendit avec force arguments et instances de cette faveur fatale. Il ne connaissait rien, disait-il, aux entreprises minières, et n'avait pas la possibilité de négocier sa concession sur le marché financier européen. Il n'y avait plus aucun moyen d'exploitation dans cette mine, dont les bâtiments avaient été brûlés, le matériel d'extraction détruit, les mineurs dispersés depuis des années, dont la route même avait disparu sous l'exubérance d'une végétation tropicale, comme si la mer l'eût engloutie, et dont la galerie principale s'était effondrée à 100 mètres de l'entrée. Ce n'était plus une mine abandonnée, mais une gorge sauvage et inaccessible, perdue dans les rochers de la Sierra, où subsistaient quelques vestiges de bois calcinés, quelques tas de briques effritées et quelques pièces informes de fer rouillé sous un enchevêtrement de lianes épineuses. M. Gould ne désirait nullement se voir propriétaire de ce lieu désolé, et la seule pensée d'une telle faveur lui donnait des nuits de fièvre et d'insomnie. Il se trouvait malheureusement que le ministre des Finances de l'époque était un homme à qui M. Gould avait autrefois refusé une petite aide pécuniaire, sous prétexte que le solliciteur, joueur et tricheur au-dessus de tous, était de plus soupçonné de vol à main armée au détriment d'un riche ranchero dans le district lointain où il exerçait les fonctions de juge. Or, depuis son accès à sa haute situation, le ministre avait l'intention de rendre à Señor Gould, pauvre homme, le bien pour le mal. Il affirmait dans les salons de Santa Marta sa résolution avec une voix si douce et si implacable, et avec de tels regards de malice, que les amis de M. Gould l'avaient supplié de ne pas chercher cette fois à écarter cette affaire moyennant rançon. Tentative inutile et qui pouvait n'être pas sans danger. C'était aussi l'avis d'une grosse Française à la voix de Rogomme, qui se disait fille d'un officier supérieur de l'armée et qui logeait à la porte du ministère des Finances dans un couvent sécularisé. Cette florissante personne, à qui l'on venait parler en faveur de M. Gould et offrir un cadeau respectable, hocha la tête avec tristesse. Elle ne se croyait pas le droit d'accepter d'argent pour un service qu'elle ne pouvait pas rendre. L'ami que M. Gould avait chargé de cette mission délicate affirma plus tard que dans l'entourage immédiat ou éloigné du gouvernement, cette femme était la seule personne honnête qu'il eût jamais rencontrée. « Pas moyen, avait-elle dit, avec le ton cavalier et la voix rauque qui lui était naturelle, et dans des termes plus dignes d'une enfant née de parents inconnus que de l'orpheline d'un officier supérieur. Non, pas moyen, mon garçon. C'est dommage, tout de même. Ah, zut, je ne vole pas mon monde, je ne suis pas ministre, moi. Vous pouvez remporter votre petit sac. » Pendant un instant, elle mordit ses lèvres rouges, déplorant dans son fort intérieur la rigide tyrannie des principes qui présidaient au trafic de son influence. Puis, d'un ton significatif et avec une nuance d'impatience, « Allez, poursuivait-elle, et dites bien à votre bonhomme, entendez-vous, qu'il faut avaler la pilule. » Après un tel avertissement, il n'y avait plus qu'à signer et à payer. M. Gould avait donc avalé la pilule, que l'on aurait pu croire composé d'un poison subtil destiné à agir sur son cerveau. Il fut tourmenté depuis ce jour-là par le démon de la mine qui prenait dans son esprit très au courant de la littérature de fiction la forme du vieillard de la mer attaché à ses épaules. Il se mit à rêver de vampires. M. Gould s'exagérait d'ailleurs les périls de sa situation parce qu'il ne savait pas envisager les faits avec calme. Sa position au Costaguana n'était atteinte en aucune façon. Mais l'homme est un être désespérément routinier, et l'extravagance de ce nouvel attentat à sa bourse bouleversait toutes ses idées. Il voyait autour de lui tous ses amis et connaissances volés au grand jour par les bandits grotesques et féroces qui, depuis la mort de Guzman Bento, se livraient à l'exploitation des gouvernements et des révolutions. L'expérience lui avait appris que si le butin répondait souvent mal à leur légitime espoir, les bandits en possession du palais présidentiel n'étaient du moins jamais à court de prétexte pour justifier leurs prétentions. Le premier colonel venu, qui traînait derrière lui une bande de léperos en haillons, savait exposer avec force et précision à un civil à quel titre il lui demandait par exemple 10 000 $, ce qui voulait dire qu'il en attendait 1 000 000 de la générosité de son interlocuteur. M. Gould savait cela, et s'était soumis avec résignation aux nécessités de l'heure, dans l'espoir de temps meilleurs. Mais il trouvait intolérable de se voir voler sous couleur d'affaires et dans les formes de la légalité. En dépit de toute son honorabilité et de sa sagesse, M. Gould père avait un gros défaut. Il attachait trop d'importance à la forme, faute commune d'ailleurs à la plupart des hommes qui restent toujours enclins aux préjugés. Il y avait pour lui dans cette affaire une vile parodie de justice, et le choc moral finit par compromettre sa santé physique. « Tout cela me tuera, » déclarait-il 10 fois par jour. Et en effet, il se mit à souffrir de la fièvre, du foie et plus encore de son incapacité harassante à penser à autre chose. Le ministre des Finances n'aurait pu rêver vengeance plus subtile et plus efficace. Dans les lettres même que M. Gould adressait à son fils Charles, alors âgé de 14 ans, qui faisait ses études en Angleterre, il finissait par ne plus parler que de la mine. Il se lamentait sur l'injustice, la persécution, le mauvais coup dont il était victime. Il s'étendait pendant des pages sur les conséquences de cette infamie. Le privilège lui avait été en effet concédé à perpétuité, à lui et à ses descendants. Il suppliait son fils de ne jamais rentrer au Costaguana, de ne jamais y réclamer sa part d'un héritage corrompu par l'infâme concession, de ne jamais y toucher, de n'en jamais approcher, d'oublier qu'il y avait une Amérique et de se faire en Europe une carrière commerciale. Et pour clore chacune de ses lettres, il se reprochait amèrement d'être resté trop longtemps dans cette caverne de voleurs, d'intrigants et de bandits. Un garçon de 14 ans peut s'entendre dire et répéter que son avenir est perdu, par suite de la possession d'une mine d'argent, sans que la substance même de cette déclaration l'émeuve beaucoup. Mais elle a néanmoins de quoi le surprendre et solliciter ses conjectures. D'abord simplement intrigué et peiné par les lamentations rageuses de son père, Charles Gould se mit à la longue à retourner le sujet dans sa tête, pendant les heures qu'il pouvait distraire du travail et du jeu. Au bout d'un an, la lecture des lettres paternelles lui avait valu la conviction solide de l'existence d'une mine d'argent au Costaguana, dans cette même province de Sulaco, où le pauvre oncle Harry avait été fusillé par des soldats, bien des années auparavant. À cette mine se rapportait de façon très précise l'inique concession Gould, contrat établi par un document que son père eut ardemment désiré déchirer et jeter au visage des présidents, des juges et des ministres d'État. Cette envie, puisque la chose était inique, paraissait tout à fait légitime au jeune garçon. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est justement en quoi l'affaire était inique. Plus tard, avec une sagesse mûrie, il finit par dégager la vérité du fatras des allusions aux vieillards de la mer, aux vampires et aux goules qui donnaient à la correspondance de son père un parfum fantastique de contes de mille et une nuits. Et le jeune homme finit par connaître la mine de Saint-Thomé aussi bien que le vieillard qui lui adressait de l'autre bout du monde ses missives irritées et plaintives. Celui-ci avait à diverses reprises été frappé de lourdes amendes pour avoir négligé l'exploitation de la mine, sans parler des sommes qui lui avaient été extorquées à titre d'acompte sur les bénéfices à venir, avance qu'un homme en possession d'un tel privilège ne pouvait refuser au gouvernement de la République. Il voyait ainsi, écrivait-il, fondre le reste de sa fortune en échange de reçus sans valeur, ce qui ne l'empêchait pas d'être considéré comme un homme avisé, qui avait su tirer d'énormes avantages des difficultés de son pays. Et en Angleterre, le jeune homme se prenait d'un intérêt de plus en plus aigu pour un événement qui suscitait tant de commentaires et de protestations passionnées. Il y pensait chaque jour, mais il y pensait sans amertume. C'était sans doute pour son pauvre père une triste affaire qui jetait un jour singulier sur la vie sociale et politique du Costaguana. La sympathie apitoyée qu'il en ressentait pour M. Gould ne l'empêchait pas de considérer les choses avec calme et réflexion. Ses propres sentiments n'avaient subi aucune atteinte, et l'on partage difficilement, de façon durable, les angoisses physiques et morales du voisin, même lorsque le voisin se trouve être un père. En atteignant sa 20e année, Charles Gould était, à son tour, tombé sous l'empire de la mine de Saint-Thomé. Mais c'était une autre sorte d'envoûtement, plus adéquate à sa jeunesse, un envoûtement dont la formule magique comportait jeune force, espoir et confiance, au lieu de lassitude, indignation et dégoût. Son père l'avait laissé libre de diriger sa vie, à la réserve de ne point rentrer au Costaguana, et il avait poursuivi, en Belgique et en France, ses études d'ingénieur des mines. Mais ses travaux théoriques gardaient, à son sentiment, quelque chose de vague et d'incomplet. Les mines avaient acquis pour lui un intérêt dramatique. C'était d'un point de vue personnel qu'il étudiait leurs particularités, comme on pourrait étudier les caractères divers d'individus humains. Il les visitait avec la curiosité que d'autres apportaient à la fréquentation des hommes célèbres. Il explora des mines en Allemagne, en Espagne, en Cornouailles. les exploitations abandonnées l'intéressaient tout particulièrement. Leur désolation le touchait, comme nous touche la vue des misères humaines, aux causes si variées et si profondes. Peut-être étaient-elles sans valeur, mais peut-être aussi les avait-on simplement mal comprises. Sa future femme fut la première et peut-être la seule personne à découvrir le mobile secret qui dictait, en face du monde des choses matérielles, l'attitude douloureuse et muette de cet homme. Et son admiration pour lui, à demi hésitante encore, comme un oiseau qui ne peut déployer ses ailes sur un terrain trop plat, trouva dans ce secret la crête qui lui permit de prendre son essor vers le ciel. Il s'était connu en Italie, où la future Madame Gould vivait auprès d'une pâle vieille tante qui, bien des années auparavant, avait été mariée à un marquis italien, déjà âgé et à demi ruiné. Elle pleurait maintenant cet homme qui avait donné sa vie à l'indépendance et à l'unité de son pays, et qui avait connu un enthousiasme aussi généreux que le plus jeune des héros tombés pour la noble cause, cette cause dont Giorgio Viola restait une épave errante, perdue dans le monde, comme un espar brisé, abandonné en mer après une bataille navale. La marquise menait une vie muette et effacée, et ressemblait à une nonne, avec sa robe noire et son bandeau blanc au front. Elle occupait quelques pièces au premier étage d'un vieux palais en ruine, tandis que les grandes salles vides du rez-de-chaussée abritaient sous leur plafond peint la famille de son fermier, avec ses moissons, ses volailles et même ses bestiaux. Les deux jeunes gens s'étaient rencontrés à Luc, et de ce jour, Charles Gould avait cessé de visiter les mines. Une fois seulement, ils allèrent en voiture voir des carrières de marbre, dont l'exploitation, qui arrachait à la terre ses trésors enfouis, pouvait rappeler celle d'une mine. Charles Gould ne chercha jamais de paroles pour traduire ses sentiments à la jeune fille. Il se contentait de penser et d'agir devant elle, ce qui est la meilleure des sincérités. Il disait souvent « Il me semble que mon pauvre père ne voit pas juste dans cette affaire de Saint-Thomé. » Et les jeunes gens discutaient longuement la question comme s'ils avaient voulu influencer, aux antipodes, l'esprit de M. Gould. En réalité, ils discutaient parce que l'amour trouve à se manifester dans tous les sujets et sait palpiter dans les mots les plus indifférents. C'est ce qui rendait ces discussions précieuses à Mme Gould au temps de leur fiançailles. Charles craignait que son père n'usât ses forces et ne se rendit malade dans ses efforts pour se dépêtrer de la concession. « Ce n'est pas ainsi qu'il faudrait mener l'affaire, » murmurait-il à mi-voix, comme pour lui-même. Et lorsque la jeune fille manifestait son étonnement de voir un homme énergique consacrer toute son activité à des intrigues et à des complots, il lui faisait observer très doucement, pour bien démontrer qu'il comprenait sa surprise, « Il ne faut pas oublier qu'il est né là-bas. » Elle méditait sur cette réponse pour répliquer vivement et par un argument indirect dont il admettait pourtant l'irréfutable logique. « Eh bien, et vous, n'y êtes-vous pas né aussi ?» Mais il avait sa réponse prête. « Oh, pour moi la chose est différente. J'ai quitté le pays depuis 10 ans. Mon père n'en a jamais été absent aussi longtemps que moi, et voici plus de 30 ans qu'il ne s'en est pas éloigné. » C'est vers elle qu'il se tourna tout de suite en apprenant la mort de son père. « C'est cette affaire qui l'a tué, » dit-il. À l'annonce de la fatale nouvelle, il était sorti de la ville, suivant droit devant lui la route blanche sous l'ardent soleil de midi, et ses pas l'avaient mené vers elle, dans le vestibule du palazzo en ruine, pièce majestueuse et nue, où pendait çà et là, sur les murs dépouillés, une longue bande de damas, noire de moisissures et de vétusté. Le mobilier se composait d'un unique fauteuil au dossier brisé, et d'un pied-douche octogonal qui portait un lourd vase de marbre, fendu du haut en bas et tout orné de masques et de guirlandes sculptées. Charles Gould était blanc, des souliers aux épaules, de la poussière du chemin, et sous sa casquette à deux pointes, de grosses gouttes de sueur inondaient son visage. Il tenait dans sa main nue un épais bâton de chêne. Tout pâle sous les roses de son chapeau de paille, la jeune fille était gantée, et balançait l'ombrelle légère qu'elle venait de saisir pour aller à sa rencontre au pied de la colline, à l'endroit où se dressaient 3 grands peupliers au-dessus du mur d'une vigne. « Oui, cette affaire l'a tué, » répéta-t-il. « Il aurait dû vivre de longues années encore. On vit vieux dans notre famille. » Elle était trop émue pour prononcer un mot, et le jeune homme fixait sur l'urne de marbre un regard immobile et insistant, comme s'il avait voulu en graver pour toujours l'image dans son souvenir. C'est seulement lorsqu'il se tourna vers elle en balbutiant « Je suis venu vers vous, je suis venu tout de suite vers vous », sans pouvoir achever sa phrase, qu'elle sentit pleinement la tristesse de cette mort solitaire et douloureuse dans un pays lointain. Il saisit la main de la jeune fille pour la porter à ses lèvres, tandis qu'elle laissait tomber l'ombrelle et caressait sa joue en murmurant « Mon pauvre ami ». Puis elle essuya ses larmes sous le vent arrondi du vaste chapeau de paille, toute petite dans sa robe blanche unie, comme un enfant perdu qui aurait pleuré dans la grandeur déchue du noble vestibule. Le jeune homme, debout près d'elle, était revenu à son immobilité parfaite et à la contemplation de l'urne de marbre. Un peu plus tard, ils sortirent pour faire une longue promenade, silencieuse, jusqu'à cette exclamation de Charles Gould. Oui, mais si seulement il avait pris la chose par le bon côté. Ils s'arrêtèrent. Partout, les ombres s'allongeaient sur les collines, sur les routes, sur les oliveraies encloses. Ombres des peupliers, des châtaigniers touffus, des bâtiments de fermes et des murs de pierre. Dans l'air léger, le son grêle et pressé d'une clochette semblait mettre la palpitation du soleil couchant. La jeune fille avait la bouche entr'ouverte, comme si elle eût été surprise de l'expression insolite du regard de son compagnon. Cette expression, d'ordinaire, était faite d'une approbation attentive et sans réserve. Il se montrait, dans leur conversation, le plus curieux et le plus déférent des auditeurs, et cette attitude plaisait grandement à la jeune fille. Elle y voyait l'affirmation de sa propre puissance, sans qu'il y perdît rien de sa dignité. Avec ses petits pieds et ses petites mains, avec son frêle visage délicieusement encadré de boucles lourdes, avec sa bouche un peu grande aux lèvres entr'ouvertes, comme pour exhaler un souffle parfumé de franchise et de générosité, cette petite fille svelte avait le cœur aussi difficile à satisfaire qu'une femme d'expérience. Plus haut que toutes les flatteries et toutes les promesses, elle prisait sa fierté dans l'homme de son choix. Mais en ce moment, Charles Gould ne la regardait pas du tout. Il avait l'expression tendue et vague de l'homme qui, de propos délibérés, regarde dans le vide, par-dessus la tête d'une femme aimée. Oui, oui, tout cela était inique. On a empoisonné la vie du pauvre homme. Oh, pourquoi n'a-t-il pas voulu me laisser retourner vers lui? À l'avenir, il faudra que je m'attelle à cette besogne-là. Il avait prononcé ces mots avec une assurance parfaite, mais son regard tomba sur la jeune fille, et il se sentit aussitôt conquis par l'incertitude et la peur. La seule chose qu'il voulut savoir maintenant, c'était si elle l'aimait assez, si elle aurait le courage de le suivre si loin. Il lui posa ces questions d'une voix tremblante d'anxiété, car c'était un homme de décision. Oui, elle l'aimait assez. Oui, elle le suivrait. Et aussitôt, la future hôtesse des Européens de Sulaco sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout s'évanouit, même le son de la cloche. Et pourtant, quand elle se retrouva d'aplomb, la cloche sonnait toujours dans la vallée. Un peu haletante, elle porta la main à ses cheveux, avec un regard furtif sur le sentier pierreux dont la solitude la rassura. Charles avait mis un pied dans le ruisseau desséché pour ramasser l'ombrelle ouverte, tombée loin d'eux dans la poussière avec un bruit martial de baguette de tambour. Il la lui rendit gravement, avec une mine légèrement confuse. Elle glissa sa main sous le bras du jeune homme, et ils revinrent sur leurs pas. Les premiers mots qu'il prononça furent ceux-ci. « Il est heureux que nous puissions nous installer dans une ville de la côte. Vous avez entendu prononcer ce nom de Sulaco. Je suis content que mon père y ait fait l'acquisition, voici déjà longtemps, d'une belle maison, pour qu'il y eut toujours une maison Gould dans la capitale de l'ancienne province occidentale. J'y ai habité toute une année avec ma chère mère dans mon enfance, pendant un voyage de mon père aux États-Unis. Vous serez la nouvelle maîtresse de la Casa Gould. » Et un peu plus tard, dans le coin habité du palazzo qui dominait les vignes, les collines de marbre, les pins et les oliviers de Luc, il dit encore « Le nom de Gould fut toujours en honneur à Sulaco. Mon oncle Harry, chef de l'État pendant un certain temps, a laissé un nom respecté entre tous ceux des premières familles. J'entends par là les pures familles créoles, qui ne prennent aucune part à la misérable farce des gouvernements. Mon oncle Harry n'avait rien d'un aventurier. Les Gould du Costaguana ne sont pas des aventuriers. Il aimait le pays où il était né, mais n'en restait pas moins, par ses idées, essentiellement anglais. Il s'était rallié à la formule de l'époque où l'on ne parlait que de fédération, mais n'était pas pour cela un politicien. Il s'était simplement mis au service de l'ordre social par amour d'une liberté raisonnable et par haine de toutes les tyrannies. Sans se payer de mots, il s'attachait à l'œuvre qui lui paraissait juste, comme je sens s'imposer à moi la nécessité de prendre en main cette mine. Ainsi parlait-il à la jeune fille, parce que sa mémoire était peuplée de souvenirs d'enfance, son cœur plein de l'espoir d'une vie vécue à côté d'elle, et son esprit absorbé par la concession de Saint-Thomé. Il ajouta qu'il allait la quitter quelques jours pour se mettre en quête d'un Américain de San Francisco qui devait être encore en Europe. Il avait fait sa connaissance quelques mois auparavant dans une vieille ville historique d'Allemagne, située au centre d'un district minier. L'Américain avait sa famille avec lui, mais se sentait un peu abandonné par les dames qui passaient leur journée à dessiner les anciennes portes et les tourelles des maisons médiévales. Aussi était-il devenu, en de communes explorations de mines, un inséparable compagnon pour Charles Gould. Cet homme s'intéressait aux entreprises minières, connaissait un peu le Costaguana et avait entendu parler des Gould. Leur rapport avait eu toute l'intimité que permettait la différence de leurs âges. Et Charles Gould voulait retrouver maintenant ce capitaliste d'esprit avisé et d'abord facile. La fortune paternelle au Costaguana, qu'il avait supposé considérable encore, semblait avoir fondu dans le creuset scélérat des révolutions. Il ne restait guère au jeune homme, outre quelques 10 000 livres déposées en Angleterre, que la maison de Sulaco, une vague concession forestière dans un district sauvage et lointain, et cette mine de Saint-Thomé, dont la hantise avait conduit son pauvre père au tombeau. Il expliquait tout cela à sa fiancée. L'heure était avancée lorsqu'il la quitta. Jamais elle ne lui avait donné une telle impression de charme séducteur. L'ardente curiosité de la jeunesse pour une vie nouvelle, pour les lointains pays, pour un avenir parfumé d'aventures et de luttes, une pensée subtile aussi de réparation et de victoire l'avait emplie d'une animation joyeuse qui valait à son compagnon un redoublement d'exquise tendresse. Il la quitta pour redescendre la colline, et dès qu'il fut seul, il se retrouva l'âme lourde. L'irréparable transformation que la mort apporte au cours de nos pensées quotidiennes met au cœur une inquiétude poignante et vague. Charles Gould souffrait de songer que jamais désormais il ne pourrait penser à son père comme il avait pensé à lui jusque-là. Il ne pouvait déjà plus évoquer son image vivante. La pensée de cette situation, qui affectait si vivement sa propre personne, emplissait son cœur d'un désir douloureux et courroucé d'action. En cela, d'ailleurs, son instinct ne le trompait pas. L'activité est la plus grande consolatrice, l'ennemie des rêveries vagues et la mère des illusions flatteuses. C'est elle seule qui nous donne une sensation d'empire sur la destinée. Et pour lui, la mine était manifestement le champ d'action nécessaire. Seulement, il fallait trouver le moyen d'aller à l'encontre de la volonté solennelle du mort. Charles Gould se décida résolument à rendre sa désobéissance aussi complète que possible, pour en faire une sorte de réparation à l'égard du défunt. La mine avait été la cause d'un absurde désastre moral. Il fallait faire de son exploitation un succès sérieux et moralisateur. Il devait cela à la mémoire de son père. Telles étaient, au sens propre du mot, les émotions de Charles Gould. Il songeait au moyen de trouver, à San Francisco ou autre part, des capitaux importants. D'ailleurs, se disait-il incidemment, la volonté des morts était de façon générale un guide infidèle. Un mourant saurait-il prévoir les changements prodigieux qu'une seule mort peut entraîner dans l'aspect même du monde. La dernière phase de l'histoire de la mine, Madame Gould la connaissait par expérience. C'était l'histoire même de sa vie conjugale. Le manteau de la situation héréditaire des Gould à Sulaco avait amplement couvert sa petite personne, mais elle n'entendait pas laisser étouffer, sous le poids de cet étrange vêtement, la vivacité d'un caractère qui n'était pas seulement la marque d'une gaieté juvénile, mais aussi d'une intelligence ardente. L'intelligence de Doña Emilia n'avait rien de masculin. Un esprit viril n'est point, chez une femme, la marque d'une essence supérieure, mais en fait un être imparfaitement différencié d'un intérêt stérile et médiocre. L'intelligence toute féminine de Doña Emilia lui facilita la conquête de Sulaco, en éclaira le chemin pour sa générosité et sa douceur. Elle savait causer de façon charmante, mais elle n'était pas bavarde. La sagesse du cœur, qui ne s'occupe ni d'édifier ni de détruire des théories, non plus que de combattre pour des préjugés, sait éviter les paroles oiseuses. Ses pensées ont la valeur d'actes de probité, de tolérance et de compassion. La véritable tendresse d'une femme, comme la virilité d'un homme, se manifeste par une sorte de conquête continuelle. Les dames de Sulaco adoraient Madame Gould. Elle me considère encore un peu comme un phénomène, disait en souriant Madame Gould à l'un des hôtes de San Francisco qu'elle avait dû recevoir chez elle un an environ après son mariage. Ils étaient trois, les premiers visiteurs venus de l'étranger pour visiter l'exploitation. Ils avaient trouvé chez Madame Gould un enjouement très aimable et chez son mari une connaissance parfaite de son métier en même temps qu'une énergie peu commune. Cette constatation les disposait en faveur de la jeune femme. L'enthousiasme non déguisé, mêlé d'une pointe d'ironie, avec lequel il parlait de la mine, séduisait fort ses hôtes et amenait sur leurs lèvres des sourires graves et indulgents, où il y avait aussi beaucoup de déférence. Peut-être, s'ils avaient deviné la part d'idéalisme qui entrait dans le désir de succès de la jeune femme, auraient-ils été aussi stupéfaits de son état d'esprit que pouvaient l'être de son inlassable activité physique les dames hispano-américaines. Pour ces messieurs aussi, elle aurait été un peu phénomène, comme elle disait. Mais comme les Gould formaient un couple essentiellement discret, leurs hôtes les quittèrent sans soupçonner chez eux d'autres mobiles dans l'exploitation de leurs mines qu'un simple désir de bénéfice. Madame Gould avait donné aux visiteurs sa voiture à mules blanches pour les conduire au port, d'où la Cérès devait les emmener vers l'Olympe des plutocrates, et le capitaine Mitchell avait saisi l'occasion des adieux pour murmurer sur un ton de mystère « Voici qui marque une époque ». Madame Gould adorait le patio de sa maison espagnole. Au-dessus du large escalier de pierre, une niche creusée dans le mur abritait une madone de plâtre, silencieuse sous ses voiles bleus et tenant dans ses bras l'enfant Jésus couronné. De la cour d'allée montaient, aux premières heures du matin, des bruits de voix étouffées, mêlés au piétinement des chevaux et des mules que l'on menait boire par couple à la citerne. Une touffe de bambou penchait au-dessus de la mare carrée les pointes effilées de ses feuilles, et le gros cocher, tout en mitouflé, restait paresseusement assis sur le bord, tenant à la main l'extrémité des longes. Par les portes basses et sombres sortaient des domestiques qui allaient et venaient nu-pieds dans la cour, deux blanchisseuses avec leurs paniers de linge, la boulangère portant sur un plateau le pain du jour. Leonarda, la camériste de Madame Gould, qui levait très haut, au-dessus de ses cheveux d'ébène, un paquet de jupons à mi-donner, éblouissant sous l'éclat du soleil. Puis le vieux portier venait en clopinant, balayer les dalles, et la maison était prête pour la journée. Sur trois côtés de la cour, les hautes pièces, qui s'ouvraient les unes dans les autres, prenaient jour aussi sur le corridor, galerie à rampes de fer forgé et à bordure de fleurs, d'où Madame Gould pouvait, comme une châtelaine du Moyen-Âge, présider au départ ou à l'arrivée des hôtes, allées et venues qui prenaient, sous l'arche sonore formant l'entrée de la maison, un air de solennité. Elle avait assisté au départ de la voiture qui emmenait au port les trois étrangers. Elle sourit, trois bras se levèrent simultanément vers trois chapeaux. Le capitaine Mitchell, qui accompagnait ces messieurs, avait déjà commencé un discours pompeux, et la jeune femme s'attardait dans la longue galerie, approchant çà et là son visage d'un bouquet de fleurs, comme pour mettre ses pensées au rythme ralenti de ses pas. Un hamac à franges d'aroa, gaiement orné de plumes de couleur, pendait dans un coin judicieusement choisi, au soleil levant, car les matinées sont fraîches à Sulaco. Les lourdes masses de flor de Nochebuena éclataient devant les portes vitrées des salons d'apparat. Un gros perroquet vert, brillant comme une émeraude dans sa cage qui paraissait tout en or, criait comme un forcené « Viva Costaguana !» puis appelait d'une voix flûtée, à l'imitation de sa maîtresse, « Leonarda, Leonarda !» pour retomber soudain au silence et à l'immobilité. Arrivée au bout de la galerie, Madame Gould jeta par la porte ouverte un regard dans la chambre de son mari. Le pied posé sur un tabouret de bois, Charles Gould bouclait déjà ses éperons pour retourner au plus vite à la mine. Sans entrer, Madame Gould laissait errer ses regards sur les murs. À côté d'une grande bibliothèque à portes vitrées, remplie de livres, un autre meuble, dépourvu de rayons et doublé de serges rouges, contenait des armes à feu soigneusement rangées, carabines Winchester, revolvers, deux fusils de chasse, des pistolets d'arçon à double canon. Au milieu de ces armes pendait seul, en évidence sur une bande de velours écarlate, un vieux sabre de cavalerie qui avait appartenu à Don Enrique Gould, le héros de la province occidentale, et qu'avait rendu à la famille Don José Avellanos, son ami de tout temps. En dehors de ces deux meubles et d'une aquarelle, œuvre de Madame Gould, représentant la montagne de Saint-Thomé, les murs de plâtre étaient complètement nus. Mais au centre de la pièce reposaient sur le sol carrelé de rouge deux grandes tables couvertes d'une litière de plans et de papier et une vitrine contenant des spécimens du minerai de la concession Gould. Tout en contemplant ce cadre familier, Madame Gould exprima à haute voix son étonnement de l'impatience inquiète que lui avaient causé les discussions de leurs hôtes. Elle s'irritait d'entendre ces hommes riches et entreprenants parler de l'avenir, des moyens d'exploitation, de la sécurité de la mine, alors qu'avec son mari, elle en pouvait causer pendant des heures, sans sentir diminuer jamais son intérêt et son plaisir. Et, baissant les yeux avec coquetterie, elle demanda « Et vous, Charlie, que pensez-vous de tout cela ?» Surprise du silence qui accueillait ses paroles, elle releva ses yeux très ouverts et jolis comme des fleurs claires. Charles avait fini d'ajuster ses éperons, et, debout maintenant sur ses longues jambes, il tirait à deux mains les pointes de ses moustaches, en laissant tomber sur la jeune femme un regard d'admiration manifeste. La sensation de ce regard d'appréciateur fut très douce à Madame Gould. « Ce sont des hommes considérables, » fit-il. « Je le sais bien, mais avez-vous entendu leur conversation ?»« On dirait qu'ils n'ont rien compris de tout ce qu'ils ont vu ici. » »« Ils ont vu la mine, et là au moins ils ont compris ce qu'il fallait, » répondit M. Gould, prenant la défense de ses hôtes. Puis la jeune femme fit allusion au plus puissant de ces hommes, au porteur de l'un des plus grands noms de la finance et de l'industrie, familier à des millions de ses contemporains, à un homme si considérable enfin que seul avait pu le décider à s'éloigner autant de son centre d'action, l'insistance des médecins, doublée de menaces voilées, pour qu'il prît un long congé. « Monsieur Holroyd, » poursuivit-elle, « s'est montré offusqué et blessé dans ses convictions religieuses par les statues habillées qu'il a vues dans la cathédrale. Il déplorait le mauvais goût de ce culte du bois et du clinquant, comme il l'appelait. Mais il m'a paru considérer son Dieu à lui comme une sorte d'associé influent à qui il abandonne sa part de bénéfices sous forme d'église nouvelle. N'est-ce pas encore une forme d'idolâtrie? Il m'a dit qu'il dotait les églises tous les ans, Charlie. Oh oui, il en fait bâtir d'innombrables, répondit M. Gould en admirant dans son fort intérieur la mobilité des traits de la jeune femme. De tous les côtés, cette munificence l'a rendu célèbre. « Oh, il ne s'est vanté de rien, » fit Madame Gould avec un scrupule de justice. « Je crois que c'est vraiment un brave homme. Mais il a l'esprit si étroit. Un pauvre Indien qui vient offrir un bras ou une jambe d'argent pour remercier son Dieu d'une guérison obtenue agite avec autant de raison et de façon plus touchante. Il est à la tête de formidables affaires d'argent et de cuivre, » fit remarquer Charles Gould. « C'est bien cela, la religion de l'argent et du fer. » Il s'est montré d'ailleurs très aimable, malgré son air de gêne austère lorsqu'il a vu pour la première fois la Madone de notre escalier, cette idole de bois peint. Il ne m'a pourtant fait aucune remarque. Mon cher Charlie, j'ai entendu ces messieurs causer entre eux. Est-il possible qu'ils ambitionnent réellement, pour un énorme bénéfice, de se faire les esclaves du monde entier, de puiser l'eau et fendre le bois pour toutes les nations ? « Il faut bien travailler pour quelque chose, » fit M. Gould, d'un ton rêveur. La jeune femme fronça les sourcils en regardant son mari de la tête aux pieds. Ses culottes de cheval, ses guêtres de cuir, article nouveau au Costaguana, son habit Norfolk de flanelle grise et ses longues moustaches de feu lui donnait un air d'ancien officier de cavalerie, muet en gentilhomme campagnard. Et ces deux aspects plaisaient à Madame Gould. « Comme il a maigri, le pauvre garçon, se disait-elle. Il se surmène. » Mais du visage ardent, net et coloré, de la longue silhouette mince, se dégageait sans aucun doute un air de race et de distinction. L'expression de la jeune femme s'adoucit. « Je me demandais seulement ce que vous pensiez, » murmura-t-elle. En fait, Charles Gould avait, au cours de ces derniers jours, dû trop réfléchir avant de dire un mot, pour faire très attention à ses propres sentiments. Mais si parfaite était l'union de ces deux êtres, qu'il n'eut aucune peine à trouver sa réponse. « C'est en vous que reposent les meilleures de mes pensées, ma chérie, » fit-il doucement. Et il y avait une sincérité profonde dans cette phrase obscure, car il éprouvait pour sa femme à cet instant un redoublement de tendresse et de gratitude. La réponse ne parut pas du tout obscure à Madame Gould, qui rougit légèrement, tandis que son mari poursuivait, sur un ton différent, « Il y a cependant des faits positifs. La valeur de la mine, en tant que mine, est incontestable. Elle nous rendra très riches. Son exploitation est seulement une question de connaissances techniques que je possède, comme les possèdent aussi bien 10 000 autres ingénieurs. Mais sa sûreté, sa durée comme entreprise, les bénéfices qu'elle doit assurer aux commanditaires, aux étrangers en somme qui m'apportent leur argent, tout cela repose entièrement sur moi. J'ai inspiré confiance à un homme qui détient fortune et influence. Vous trouvez cela tout à fait naturel, n'est-ce pas? Mais moi, je n'en dis pas autant, et je me demande pourquoi il en est ainsi. Le fait est là, pourtant, et ce fait rend tout possible, car autrement, je n'aurais jamais osé aller à l'encontre du désir paternel. Jamais je n'aurais disposé de cette concession, comme un spéculateur cède son droit à une société, contre des parts et de l'argent comptant, pour s'enrichir si possible dans l'avenir, et mettre en tout cas sans tarder une somme dans sa poche. Non, quand même j'aurais pu le faire, ce dont je doute, je ne l'aurais pas fait. C'est ce que mon pauvre père n'avait pas compris. Il craignait que je m'attache à cette pauvre affaire en ruine, et que je gâche misérablement ma vie dans l'attente d'une occasion de ce genre. Telle était la vraie raison de son interdiction, à laquelle nous avons délibérément passé outre. Ils arpentaient la galerie. La tête de la jeune femme arrivait à la hauteur de l'épaule de Charles, qui avait passé un bras autour de sa taille. Ses éperons faisaient entendre un léger cliquetis. Il ne m'avait pas vu depuis 10 ans. Il ne me connaissait pas. Il s'était séparé de moi pour mon bien et ne voulait pas me laisser revenir. Il me disait, dans chacune de ses lettres, son désir de quitter le Costaguana, de tout abandonner, de fuir pour toujours. Mais il représentait un trop précieux otage. Au moindre soupçon, on l'aurait jeté en prison. Les éperons sonnaient dans le silence, et il se penchait légèrement vers sa femme. Le gros perroquet, la tête de côté, les suivait de son œil rond et fixe. Il vivait très isolé. Dès ma 10e année, il me parlait comme à un homme. Quand j'étais en Europe, il m'écrivait tous les mois. C'est 10 ou 12 pages chaque fois qu'il m'a écrite pendant 10 ans. Et en somme, il ne me connaissait pas. Songez un peu, 10 ans de séparation. C'est 10 années qui ont fait de moi un homme. Il ne pouvait pas me connaître, n'est-ce pas? Madame Gould fit le signe de dénégation qu'attendait son mari et qui semblait commandé par la force de ses arguments. Mais ce que signifiait en réalité son hochement de tête, c'est que nul être au monde, sauf elle, n'eût pu connaître son Charles pour ce qu'il était réellement. C'était impossible, cela tombait sous le sens, pourquoi donc en parler? D'ailleurs, le pauvre monsieur Gould, mort trop tôt pour apprendre même leurs fiançailles, restait à ses yeux une image trop confuse pour qu'elle pût lui attribuer le moindre jugement. Non, il ne comprenait pas. À mon sens, cette mine n'a jamais pu être une chose à vendre. Jamais. Après toutes les misères qu'elle lui a causées, je n'aurais jamais rêvé d'y toucher pour une simple question d'argent, poursuivit Charles Gould, tandis que sa femme appuyait, en manière d'approbation, sa tête contre son épaule. Ces deux jeunes gens se représentaient l'existence si lamentablement terminée, à l'heure même où leur vie s'était jointe, dans la splendeur et les promesses de cet amour qui apparaît, aux meilleurs esprits comme le triomphe du bien sur tout le mal de notre terre. C'est sur une confuse idée de réhabilitation qu'ils avaient construit leur bonheur. Le vague même de cette idée, que n'étayait aucun argument de raison, la rendait plus solide. Elle s'était imposée à leur esprit au moment précis où le dévouement instinctif de la femme et l'activité de l'homme trouvent, dans la plus vivace des illusions, leur impulsion la plus vigoureuse. L'interdiction paternelle même leur imposait la nécessité du succès. Ils étaient moralement tenus de justifier la claire et joyeuse vision de la vie qu'ils avaient opposée au cauchemar funeste de la lassitude et du désespoir. Si l'idée de richesse effleurait jamais leur esprit, ce n'était que comme le signe de ce succès. Orpheline et sans fortune, depuis sa tendre enfance, élevée dans une atmosphère purement intellectuelle, Madame Gould n'avait jamais attaché son esprit au rêve d'une richesse qui paraissait trop incertaine et qu'elle n'avait jamais appris à souhaiter. Elle n'avait jamais connu non plus la véritable gêne. La pauvreté même de sa tante, la marquise, n'avait rien d'intolérable pour un esprit raffiné. Elle paraissait en harmonie avec la douleur de son veuvage et avait l'austérité d'un sacrifice offert à un noble idéal. Il n'y avait donc pas trace d'une préoccupation matérielle, même légitime, dans l'esprit de Madame Gould. Ce qu'elle voulait, c'est que fût réfutée l'erreur du défunt, auquel elle pensait avec quelque tendresse, comme au père de Charlie, et avec quelque impatience à cause de sa faiblesse. Il le fallait pour que leur prospérité restât sans souillure et gardât la pureté de leur unique et immatériel idéal. Charles Gould, de son côté, bien qu'il fût obligé de tenir compte de l'argent, ne le considérait que comme moyen, non comme fin. À moins que la mine ne fût une bonne affaire, il ne fallait pas s'en occuper. Et c'était ce côté de la question qu'il avait à faire valoir. C'était son levier pour mettre en branle le capitaliste. Charles Gould croyait à sa mine. Il en connaissait tout ce que l'on en pouvait connaître, et sa conviction, sans être servie par une grande éloquence, était communicative, car les hommes d'affaires ont souvent une imagination aussi ardente que les amoureux. Ils sont beaucoup plus fréquemment, qu'on ne se le figure en général, entraînés par une influence personnelle, et la confiance de Charles Gould était absolument convaincante. D'ailleurs, les gens auxquels il s'adressait n'ignoraient pas qu'au Costaguana, le jeu d'une exploitation minière peut valoir beaucoup plus que la chandelle. Les hommes d'affaires savaient bien que la vraie difficulté n'était pas d'ordre matériel, et cette difficulté paraissait moins redoutable à ceux qui avaient entendu le ton d'implacable et froide résolution de Charles Gould. Les hommes d'affaires se laissent parfois guider par des considérations qui paraîtraient absurdes au jugement commun du monde, et semble souvent décidé par des impulsions purement morales. « Très bien », avait dit le gros personnage à qui Charles Gould, lors de son passage à San Francisco, venait d'exposer avec lucidité son point de vue. « Supposons que la mine de Sulaco soit mise en exploitation. Il y a à tenir compte d'abord de la maison Holroyd. C'est parfait. Puis de M. Charles Gould, citoyen de Costaguana, ce qui est encore parfait. Et enfin, du gouvernement de la République. » Jusqu'ici, l'affaire rappelle la première exploitation des champs de nitrate d'Atacama, dont s'occupait aussi un établissement financier, un gentleman nommé Edwards, et un gouvernement, ou plutôt deux gouvernements sud-américains. Et vous savez ce qui en résulta. Une guerre prolongée et dévastatrice, Monsieur Gould. Du moins avons-nous la chance, dans le cas présent, de ne trouver en face de nous, pour réclamer sa part du butin, qu'un seul gouvernement sud-américain. C'est un avantage. Mais il y a des degrés dans le mal, et ce gouvernement est le gouvernement du Costaguana. Ainsi parlait le grand personnage, le millionnaire dont les dotations d'église étaient proportionnées à l'immensité de son pays natal, le malade à qui les médecins adressaient à mots couverts leurs terribles menaces. C'était un homme aux membres robustes et au ton pondéré, dont la solide corpulence prêtait à la redingote à revers de soie un air de dignité parfaite. Avec ses cheveux gris de fer et ses sourcils encore noirs, il avait le profil lourd d'une tête de César sur une vieille monnaie romaine. Il y avait, parmi ses ancêtres, des Allemands, des Écossais et des Anglais. Mais les traces de sang danois et français lui valaient, à côté d'un tempérament de puritain, une imagination ardente de conquérant. Il sortait, pour Charles Gould, de son habituelle réserve, à cause de la chaleureuse lettre d'introduction qu'il avait apportée d'Europe, et plus encore peut-être en raison de son goût instinctif pour la fermeté et la décision, partout où il les rencontrait et quelques buts qu'elles poursuivissent. Le gouvernement du Costaguana jouera son jeu jusqu'au bout, ne l'oubliez pas, monsieur Gould. Et qu'est-ce que c'est que le Costaguana? Le gouffre sans fond où s'englottissent les emprunts à 10% et les autres placements imbéciles. L'Europe y a jeté ses capitaux à deux mains pendant des années. Nous n'en avons pas fait autant. Nous savons dans ce pays rester à l'abri quand il pleut. Bien entendu, nous interviendrons un jour. Il le faudra. Mais rien ne nous presse. Le temps lui-même travaille pour le plus grand pays du monde. C'est nous qui donnerons partout le mot d'ordre, dans l'industrie, le commerce, la loi, le journalisme, l'art et la religion, depuis le Cap Horn jusqu'au détroit de Smith, et plus loin même, si nous trouvons au pôle Nord une affaire intéressante. Alors nous pourrons nous occuper à loisir des îles lointaines et des autres continents. Nous mènerons, bon gré mal gré, les affaires du monde. Le monde n'y peut rien, ni nous non plus peut-être. Il exprimait ainsi sa foi dans l'avenir avec des paroles adaptées à son intelligence, inhabile à l'exposition des idées générales. Son esprit se nourrissait de faits positifs, et Charles Gould, dont l'unique fait de la mine d'argent avait toujours guidé l'imagination, n'aurait su faire aucune objection à cette théorie de l'avenir du monde. Ce qui avait pu le dépiter un instant, c'était le néant auquel le développement de pensées semblables paraissait réduire ses propres projets. Lui-même et ses idées, comme toutes les richesses souterraines de la province occidentale, semblaient tout à coup dénuées de la plus minime importance. Sensation déplaisante, certes, mais insuffisante à décourager Charles Gould. Il avait conscience de produire sur son hôte une impression favorable, et cette sensation amenait sur ses lèvres un vague sourire où son interlocuteur crut voir une marque d'approbation et d'admiration discrète. Il sourit légèrement à son tour, et Charles Gould, avec la souplesse d'esprit habituelle aux hommes qui défendent une cause très chère, se dit aussitôt que l'insignifiance même de son but lui vaudrait le succès. On l'accepterait avec sa mine, en raison même de leur faible valeur, à côté des desseins de prodigieux avenir que contemplait le grand homme. Cette considération n'humiliait d'ailleurs aucunement Charles Gould, pour qui l'affaire gardait toute son importance. Les plus vastes conceptions d'avenir d'un autre homme n'auraient su toucher à sa volonté de réhabiliter la mine de Saint-Thomé. La précision même de ce but, nettement défini et facile à atteindre dans un temps limité, lui fit, pendant un instant, considérer son hôte comme un idéaliste rêveur et sans importance. Imposant et pensif, le grand homme posait sur Charles Gould un regard bienveillant. Il rompit le silence pour faire observer que les concessions pleuvaient au Costaguana. Le premier imbécile venu qui voulait apporter son argent en décrochait une sans coup férir. « Et c'est avec cela que l'on ferme la bouche à nos consuls, » poursuivit-il, avec un éclair de dégoût dans les yeux. Mais il retrouva bien vite son impassibilité. « Voyez-vous, un homme intègre et consciencieux, qui ne cherche pas les pots de vin et se tient à l'écart des conspirations, des intrigues et des factions, reçoit bien vite ses passeports. Persona non grata, comprenez-vous, monsieur Gould? C'est ce qui empêche toujours notre gouvernement d'être bien informé. Il ne faudrait pourtant pas laisser l'Europe envahir ce continent, mais le temps de notre intervention ne me paraît pas encore venu. D'ailleurs, nous deux ici, nous ne sommes ni le gouvernement de ce pays, ni des pauvres d'esprit. Votre affaire paraît bonne. Reste la question de savoir si le second des associés, vous en l'espèce, sera de taille à tenir tête au troisième et malencontreux partenaire, représenté par quelqu'une des hautes et puissantes bandes de voleurs qui détiennent le gouvernement du Costaguana. Qu'en dites-vous, hein, monsieur Gould? Il se pencha pour planter son regard dans les yeux de son interlocuteur. Le jeune homme ne sourcilla point. Le souvenir de la boîte pleine de lettres paternelles prêta au ton de sa réponse le mépris et l'amertume accumulés depuis des années. Pour ce qui est de connaître ces gens-là, avec leurs méthodes et leurs politiques, je puis répondre de moi-même. J'ai été bourré de ces notions depuis mon enfance. Ce n'est point un excès d'optimisme qui risque de me faire commettre des fautes. Je le crois, c'est parfait. du tact et une lèvre roide. Voilà ce qu'il nous faudra. Et puis, vous pourrez un peu aussi jouer de la puissance de vos associés. Pas trop, cependant. Nous marcherons avec vous tant que tout ira bien. Mais nous ne nous laisserons pas entraîner dans des aventures. Telle est l'expérience que je consens à tenter. Il y a des risques et nous les courrons. Si vous ne pouvez pas tenir le coup, nous paierons les pertes, cela va sans dire. Mais nous lâcherons l'affaire. La mine peut attendre, elle a déjà été fermée, n'est-ce pas? Comprenez bien que sous aucun prétexte, nous n'engagerons des sommes nouvelles pour courir après de l'argent perdu. Ainsi avait parlé dans son bureau le grand homme à qui tant d'autres hommes, considérables même aux yeux du vulgaire, obéissaient avec empressement sur un signe de sa main. Et un peu plus d'un an après, il avait, au cours de sa visite inopinée à Sulaco, accentué encore son ton d'intransigeance avec la liberté qu'autorisait sa richesse et son influence. Ce qu'il faisait peut-être avec d'autant moins de réserve qu'il s'était convaincu, à voir les travaux déjà en cours, et plus encore les démarches successives de Charles Gould, de la parfaite capacité du jeune homme à tenir sa place. Ce garçon-là, se disait-il, peut devenir une véritable puissance dans ce pays. Et cette pensée le flattait, car il n'avait pu, jusqu'ici, donner à ses intimes que peu de renseignements sur le compte de son protégé. Mon beau-frère, racontait-il, l'a rencontré dans une de ces villes allemandes vieillottes, près d'un centre minier, et me l'a adressé avec une lettre d'introduction. C'est un des Gould du Costaguana, de pure souche anglaise, bien que né dans le pays. Son oncle, qui s'était laissé entraîner dans la politique, fut le dernier président provincial de Sulaco. On le fusilla après une bataille. Son père, gros négociant de Santa Marta, avait voulu se tenir à l'écart de la politique. Il est mort ruiné après 10 révolutions. Et voilà, en deux mots, toute l'histoire du Costaguana. Les intimes eux-mêmes ne se seraient bien entendu pas hasardés à interroger sur ses mobiles un homme de cette importance. Le monde extérieur n'était admis qu'à chercher respectueusement le sens caché de ses actions. Chez ce grand homme, la prodigalité à l'égard de la plus pure forme du christianisme, dont la naïve manifestation sous forme de dotation d'église faisait sourire Madame Gould, passait auprès de ses concitoyens pour la marque d'un esprit humble et pieux. Mais dans son monde de financier, le respect qu'il inspirait se teintait d'une nuance d'ironie discrète lorsqu'on le voyait prêter son appui à une entreprise comme celle de la Saint-Thomé. C'était un caprice de grand homme. Dans l'immense bâtisse de la maison Holroyd, énorme pile de fer, de moellons et de verre, à cheval sur deux rues et surmontée d'un inextricable réseau de fils aériens, les chefs des principaux services s'avouaient, avec un sourire amusé, qu'ils n'étaient pas initiés aux secrets de la Saint-Thomé. Le courrier du Costaguana, toujours peu important et composé d'une seule grosse enveloppe, était porté tout droit et sans être ouvert au bureau directorial, d'où nul ordre concernant la mine de Saint-Thomé n'était jamais sorti. On chuchotait dans la maison que le patron envoyait lui-même des instructions écrites de sa propre main, avec plume et encre, et prenait sans doute copie de sa lettre sur son cahier personnel, inaccessible aux yeux profanes. Des jeunes gens dédaigneux, rouages insignifiants de cette énorme machine à brasser l'argent, minuscules personnages dans cette usine de grandes affaires haute de 11 étages, exprimaient franchement leur opinion sur le grand chef. Il avait fini par faire une sottise et avait honte de sa folie. D'autres employés, tout aussi insignifiants mais plus âgés, et remplis d'un respect exalté pour la maison qui avait dévoré leurs meilleures années, murmuraient d'un air sagace et important que ce mystère était un symptôme grave. La maison Holroyd allait, un de ces jours, mettre la main sur toute la république du Costaguana, avec ses mines, ses marchandises et toutes ses richesses. Mais, en somme, il ne fallait voir dans toute cette affaire qu'une fantaisie du grand homme. Il prenait tant d'intérêt à surveiller lui-même le développement de la mine qu'il s'était laissé entraîner à lui consacrer le premier congé sérieux qu'il se fût accordé depuis des années sans nombre. Dans ce cas-là, il ne s'agissait pas de lancer une grande entreprise, une administration de chemin de fer ou un groupe d'industriels. Il lançait un homme. Il eût été fort heureux d'enregistrer un succès sur ce terrain nouveau et délassant. Mais il ne se sentait pas moins tenu à renoncer à cette fantaisie si ses espoirs étaient déçus. On peut toujours jeter un homme par-dessus bord. Malheureusement, les journaux avaient trompété dans tout le pays la nouvelle de son voyage à Costaguana. S'il était satisfait de voir Charles Gould se tirer d'affaire, il mettait une nuance nouvelle de rudesse dans ses promesses d'appui. Au cours même de leur dernière conversation, une demi-heure avant de quitter le patio, le chapeau à la main, emporté par les mules blanches de Madame Gould, il avait dit à Charles, dans sa chambre, « Allez toujours de l'avant, à votre façon, et je saurai vous aider tant que vous tiendrez bon. Mais souvenez-vous que dans un cas donné, nous n'hésiterons pas à vous lâcher à temps. » Ce à quoi Charles Gould s'était contenté de répondre, « Vous pouvez commencer à envoyer les machines, dès que vous voudrez. » Et le grand homme avait goûté cette imperturbable assurance. La vérité, c'est que la netteté de ces conditions convenait parfaitement à l'esprit de Charles Gould. La mine gardait ainsi la personnalité dont son imagination d'enfant l'avait dotée, et elle ne dépendait que de lui seul. C'était une affaire sérieuse, et il savait lui aussi la prendre gravement. « Bien entendu, disait-il, à propos de cette dernière conversation, à sa femme, dans la galerie qu'ils arpentaient sous l'œil courroucé du perroquet, bien entendu, un homme de cette trempe peut, à sa fantaisie, prendre une affaire en main ou la laisser tomber. Il n'aura pas le sentiment d'un échec. Mais qu'il échoue, qu'il meure même demain, les grosses affaires minières de fer et d'argent resteront intactes, et leur puissance submergera un jour le Costaguana comme le reste du monde. » Il s'était arrêté près de la cage. Le perroquet, saisissant au vol le son d'un mot de son vocabulaire, se décida à intervenir. Les perroquets ont des façons très humaines. « Viva Costaguana » cria-t-il avec un air d'assurance. Puis il hérissa ses plumes pour prendre, derrière les barreaux brillants de sa cage, un air de somnolence repue. « Et vous croyez vraiment cela, Charlie ?» demanda Madame Gould. « Tout cela me paraît tellement matérialiste et « que m'importe, ma chérie ?» interrompit son mari, d'un ton pondéré. « Je me sers de ce que je trouve. » Il m'est indifférent que les paroles de cet homme soient la voix du destin ou seulement de la réclame. Il y a toutes sortes d'éloquences dans les deux Amériques, et l'air du nouveau continent paraît favorable à l'art de la déclamation. Oubliez-vous notre excellente Avellanos, qui peut pérorer chez nous pendant des heures? « Oh, c'est tout différent !» protesta Madame Gould, d'un ton scandalisé. Elle trouvait l'allusion mal fondée. Don José était un bon vieil ami qui parlait bien, et célébrait avec enthousiasme l'importance de la mine de Saint-Thomé. « Comment pouvez-vous comparer ces deux hommes, Charlie ? » fit-elle avec reproche. « Don José a beaucoup souffert, ce qui ne l'empêche pas d'espérer toujours. » La compétence pratique des hommes, qu'elle ne songeait pas à discuter, surprenait fort Madame Gould, qui les voyait si étrangement bornés en tant de circonstances. Mais avec un air de lassitude qui éveilla aussitôt l'inquiète sympathie de la jeune femme, Charles Gould lui affirma qu'il ne songeait à faire aucune comparaison. Il était américain, après tout, et peut-être aurait-il pu être éloquent, lui aussi, s'il avait voulu s'en donner la peine, ajouta-t-il d'un ton dédaigneux. Mais il avait respiré l'air de l'Angleterre plus longtemps qu'aucun des Gould des trois dernières générations, et n'avait pas envie d'essayer. Son père aussi était éloquent, le pauvre homme. Et il demanda à sa femme si elle se rappelait ce passage des lettres paternelles où M. Gould avait crié sa conviction. Dieu, disait-il, devait regarder ce pays avec colère pour ne pas laisser, à travers les nuées, tomber un rayon d'espoir dans la nuit d'intrigues, de sang et de crimes qui planaient sur la perle des continents. Madame Gould n'avait pas oublié. « Vous m'avez lu la lettre, Charlie, » murmura-t-elle. « C'est une plainte sinistre. Quelle tristesse devait ressentir votre père quand il s'exprimait ainsi. Il ne supportait pas de se voir voler. Cela l'exaspérait, dit Charles Gould. Mais l'image dont il usait peut nous servir encore. Ce dont nous avons besoin, c'est de lois solides, d'ordre social, de sécurité, de bonne foi. Il est facile de pérorer sur ces grands mots, mais moi je mets toute ma confiance dans les intérêts matériels. Que ces intérêts matériels soient seulement bien assis, et ils imposeront automatiquement les conditions qui leur permettent seules d'exister. C'est cela qui justifie ici la puissance de l'argent, en face de l'illégalité et du désordre. Cette puissance devient légitime parce que la sécurité qu'elle réclame pour son développement s'étend aussi aux peuples opprimés. La vraie justice viendra ensuite, et cette attente sera votre rayon d'espoir. Son bras un instant serra plus étroitement la taille souple de la jeune femme. Qui sait, ajouta-t-il, si la mine de Saint-Thomé ne fera pas briller dans la nuit cette lueur que mon pauvre père désespérait de voir jamais. Elle leva vers lui un regard d'admiration. Il comprenait les choses, et il avait su donner une forme ample aux vagues aspirations généreuses qu'elle ressentait. Charlie, dit-elle, vous êtes magnifiquement désobéissant. Il la quitta brusquement dans le corridor pour aller chercher son chapeau, un sombrero gris, article du costume national, qui se mariait singulièrement bien avec sa tenue anglaise. Il revint en boutonnant ses gants de peau tannée, une cravache sous le bras. On pouvait lire sur son visage la fermeté de ses pensées. Sa femme l'attendait au haut de l'escalier, et il termina la conversation avant de lui donner le baiser du départ. « Ce qu'il nous faut bien comprendre, dit-il, c'est qu'il n'y a plus moyen de reculer. Où pourrions-nous refaire notre vie? Il faut que nous donnions ici tout ce dont nous serons capables. » Il se pencha tendrement sur le visage levé vers lui, avec quelques remords aussi. Ce qui faisait la force de Charles Gould, c'est qu'il n'avait pas d'illusion. Pour faire vivre la concession, il fallait ramasser des armes dans la boue d'une corruption si universelle que ce mot finissait par en perdre son sens. Il était prêt à user de ses armes. Mais pendant un instant, il vit la mine d'argent qui avait tué son père l'entraîner lui-même plus loin qu'il n'aurait voulu, et avec la logique tortueuse des émotions, il sentit toute la dignité de sa vie liée au succès même de l'entreprise. Il n'y avait plus à reculer.